Et à tout à l'heure, Sonia Ghezali, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes. D'ici là, l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques avec vous, Juliette Jacquemin, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Et au sommaire, aujourd'hui, on vous emmène faire une plongée sonore dans l'univers de Radio Haïti Inter.
Une radio d'opposition, de résistance, qui connut ses plus grandes heures dans les années 60, sous l'impulsion de Jean-Dominique.
Les paysans haïtiens, les sans-travail et les sans-terre, fuient cette terre par milliers. Comme on disait il y a quelques années des Allemands de l'Est, ils votent avec leurs pieds.
Jean-Dominique et Radio Haïti Inter, dont les archives sonores sont numérisées en ce moment même par une université américaine.
À venir également, la nouvelle polémique signée Donald Trump, un tweet envoyé par le candidat républicain à la présidentielle américaine contre Hillary Clinton, évidemment. Un message antisémite selon les détracteurs de Trump, on y revient dans notre revue de presse.
Et puis une rupture amoureuse, ça peut être douloureux, ça peut être exposé aussi. C'est le thème d'un nouveau musée californien, joliment baptisé le Musée des Cœurs Brisés. Notre correspondante l'a visité.
RFI à Port-au-Prince, 89.3.
Radio Haïti Inter, c'est le nom donné à la première radio indépendante de l'île, une radio créée en 1935. Mais en fait, elle a vraiment décollé en termes de popularité plutôt dans les années 60.
Et oui, parce que c'est à cette époque qu'elle est rachetée par un agronome reconverti en journaliste, un certain Jean-Dominique. Il fera de la radio un outil de résistance à la dictature des Duvaliers. La fin tragique, on la connaît. Jean-Dominique sera assassiné en avril 2000. Un meurtre encore impuni et la radio cessera d'émettre en 2003 sous la menace.
Mais ce n'est pas la fin de l'aventure pour autant, car l'université américaine de Duke a entrepris le colossal travail de numériser les archives de la radio et de les mettre sur Internet. L'occasion pour notre correspondante Amélie Baron de nous faire réécouter les mythiques éditos de Jean-Dominique.
L'actualité à brûle-pourpoint, Haïti Inter fait le point.
Au micro, Jean-Dominique osait tout. En octobre 1980, quand Haïti Inter est sous la menace de fermeture par la dictature, et elle le saura quelques jours plus tard, il se permet un édito cinglant contre les médias d'État.
Demandons-nous comment la presse officielle pourra dorénavant occuper tout le terrain qu'elle souhaite et forcément remplir la fonction que nous remplissions. Comment avons-nous fait notre travail ? Nous, les indépendants. Les boat people, par exemple ? Vous devrez vous en occuper, messieurs. Eh bien, si j'en crois l'espace réservé dans vos colonnes ou dans les minutes de la radio nationale et de la télévision nationale, les boat people, cela aussi, c'est terminé. On n'en parlera plus en Haïti. On ignorera dorénavant que les paysans haïtiens, les sans-travail et les sans-terre, fuient cette terre par milliers. Comme on disait il y a quelques années des Allemands de l'Est, ils votent avec leurs pieds ou avec leurs canters.
Et avec une ironie dangereuse partant de dictature, Jean-Dominique imagine alors ce que serait l'actualité du pays sans Haïti Inter.
Un pays calme, sans problème, sans rides, sans grève. Tous les gens mangeront à leur faim, d'après la télévision nationale. Tous les gens seront beaux, tous les gens seront gentils, souriants, accueillants. Non, il n'y a pas 50 000 personnes qui dorment à la Belle Étoile à Port-au-Prince chaque soir, comme le prétend un rapport de la Banque mondiale. Mais non, c'est pas vrai, tout cela c'est des mensonges. Ou plutôt, tout cela n'existe pas. La presse officielle n'en parle pas. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil, comme à la télévision.
Ancien agronomiste, Jean-Dominique militait pour les droits des paysans et était un fervent défenseur du vaudou. Dès 1998, il fustigeait le prosélytisme agressif des évangélistes protestants.
Poser la question religieuse en Haïti sous la forme d'une lutte entre Jésus et Baka est faire preuve de sectarisme qui conduit tout droit à l'intolérance, en passant par un mépris profond pour des croyances identitaires de notre peuple, croyances qui ont été à l'origine de notre libération et du bris des chaînes. Les protestants affirment têtus que le vaudou est satanique à cause des danses diaboliques effectuées sous le péristyle. Ils oublient encore la Bible, qui nous raconte comment les Lévites, officiants de la religion juive, dansaient devant l'Arche d'Alliance. Mais ces protestants-là ne lisent pas avec attention l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils préfèrent s'en tenir à un enseignement schématisé, un enseignement sclérosé de l'Évangile, qui diabolise tout ce qui n'est pas d'accord avec eux. C'est la forme élémentaire, c'est la forme primitive de l'intolérance.
Ces éditos de Jean-Dominique et les archives d'Haïti Inter sont désormais en accès libre sur Internet, notamment sur le site radiohaitilives.com. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Il est 9h15 à Washington. Hillary Clinton n'arrête pas de le répéter. Elle est ravie d'avoir pu contribuer à l'enquête du FBI au sujet de cette affaire qui parasite sa campagne. L'affaire des courriels sensibles envoyés depuis sa messagerie privée.
Une affaire embarrassante que ses détracteurs la soupçonnent désormais de vouloir étouffer. Bill Clinton, son mari, a en effet été vu en grande conversation avec la ministre de la Justice la semaine dernière. La candidate démocrate à la présidentielle a en tout cas été interrogée pendant 3h30 par le FBI avant-hier, et dès le lendemain, elle racontait son interrogatoire sur NBC, les explications de Jean-Louis Pourtet.
Selon Hillary Clinton, interrogée par téléphone, l'entrevue a été courtoise et professionnelle.
C'était quelque chose que j'avais proposé depuis le mois d'août de l'année dernière. J'étais anxieuse à l'idée de m'expliquer, mais je suis heureuse à présent de pouvoir aider le ministère à conclure son enquête.
L'ancienne secrétaire d'État a continué d'affirmer qu'elle n'avait rien fait d'illégal. Interrogée sur la malencontreuse rencontre entre son mari et la ministre de la Justice, elle en a minimisé l'impact.
D'après ce que j'ai vu et entendu, ça n'était qu'un échange de plaisanteries, mais certains y ont vu autre chose. En tout cas, la ministre et mon mari ont dit qu'ils ne le referaient plus.
Le mal, toutefois, est fait et les éditorialistes de tous bords parlent d'une erreur majeure commise par Bill Clinton et Loretta Lynch. Leur rencontre avait toutes les apparences d'un conflit d'intérêts. Un ancien président qui s'entretient pendant 30 minutes avec la ministre chargée d'enquêter sur un possible délit de sa femme, c'était faire aux républicains un cadeau sur un plateau d'argent. Jean-Louis Pourtet, Washington, RFI.
Romain Lemaresquier est avec nous pour la revue de presse. Bonjour Romain.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors on parlait de Hillary Clinton, hein, à la une justement ce nouveau dérapage du candidat républicain Donald Trump. Il publie un tweet qui, une fois de plus, suscite l'indignation aux États-Unis et pas seulement.
Oui, pour comprendre pourquoi ce message a soulevé tant de réactions, il faut imaginer ce tweet qui consistait en un montage photo. Le quotidien mexicain Milenio le décrit parfaitement, en fond des billets de $100 avec au-dessus une photo en noir et blanc de Hillary Clinton, la candidate démocrate qui devrait être investie pour la présidentielle de novembre prochain, et un message dans une étoile rouge à 6 branches, la candidate la plus corrompue de tous les temps. Bien entendu, le lien a été fait entre l'étoile rouge et le symbole juif de l'étoile de David, d'où les réactions qui dénoncent un message à caractère antisémite et raciste, détaille Milenio. Un message publié alors qu'Hillary Clinton était en train d'être interrogée par le FBI concernant ses fameux courriers électroniques, selon le Washington Post. Le quotidien a remarqué que le candidat républicain a utilisé des images provenant de sites suprémacistes blancs pour façonner son tweet, ce qui a provoqué la colère chez les caciques de sa formation politique, croit savoir le Washington Post. Petite précision, le tweet a été rapidement retiré et remplacé par un montage sans étoile, mais avec un rond rouge dans lequel apparaît le même message.
Direction le Venezuela, Romain, où les sondages d'opinion écornent un peu plus encore l'image du président Nicolas Maduro.
43% des Argentins estiment que la situation de leur pays est négative. 60% des Équatoriens désapprouvent la gestion du président Rafael Correa. 68% des Boliviens rejettent les politiques d'Evo Morales. Et 68% des Colombiens ne sont pas contents de leur président Juan Manuel Santos, selon le quotidien El Nacional. Mais la palme revient à Nicolas Maduro, qui cumule tous les indicateurs dans le rouge sur sa gestion, sur la situation du pays, sa popularité et la confiance. Ils sont par exemple 94% de Vénézuéliens à estimer que la situation du pays est mauvaise ou très mauvaise. En règle générale, 80% des habitants ont une opinion négative de leur président. Et il n'y a pas que Nicolas Maduro qui pâtit de cette situation. L'armée également, puisque seuls 45% des Vénézuéliens ont confiance en elle. Seule l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition, connaît un redressement de 35% de confiance avant les dernières législatives. Elle est passée désormais à 50%.
Oui, Nicolas Maduro qui réclame la fidélité de l'armée.
Oui, durant un acte public en présence de hauts gradés de l'armée, le président vénézuélien a réclamé hier aux forces armées bolivariennes la plus grande loyauté pour continuer avec l'idéal bolivarien et le leg chaviste, les mettant en garde contre l'opposition qui souhaite, selon lui, rétablir une armée au service des intérêts de l'oligarchie impérialiste des États-Unis. C'est à lire dans les pages du quotidien mexicain L'Universal qui analyse cet appel comme une manière supplémentaire de mettre la pression sur l'opposition.
Et puis toujours au Venezuela, les ventes de PDVSA, la compagnie nationale pétrolière, n'en finissent plus de chuter.
41% de baisse de ventes de pétrole rien que pour l'année 2015, c'est selon les dirigeants de PDVSA. Les conséquences de la baisse du prix du pétrole, peut-on lire dans le quotidien La Jornada. La production serait restée stable en 2015, mais selon le quotidien, le premier trimestre de l'année 2016 devrait être encore pire puisque désormais cette production chute. Il faut rappeler que le pétrole est la principale source de financement au Venezuela. Il représente environ 80% de ses exportations. Autant dire que cette chute accentue encore plus la crise économique sans précédent que connaît ce pays.
En Colombie, on parle de l'autre guérilla, l'ELN, l'Armée de Libération Nationale. Elle dénonce la désinformation à laquelle se livrent le gouvernement et la presse nationale.
Oui, c'est à lire dans les pages du quotidien péruvien El Comercio. Selon un communiqué publié hier dimanche, l'ELN estime que tant la presse que les autorités sont complices de désinformation, attribuant à cette guérilla des faits qui ne lui sont pas imputables selon elle. L'ELN cite en exemple 8 différentes affaires. La dernière en date, des membres d'un cartel arrêté par les forces de l'ordre auraient été présentés par la police comme des membres de la guérilla. Cette désinformation, selon les dirigeants de l'ELN, justifie aux yeux du pouvoir les opérations à son encontre. Et puis toujours concernant cette guérilla, selon le quotidien El Espectador, deux de ses membres seraient responsables de la mort de deux policiers hier dans une petite localité dans le département de Nariño. D'après le quotidien, ils auraient désarmé ces deux policiers avant de les tuer avec leurs propres armes.
Merci Romain Lemaresquier d'avoir été avec nous. C'est un musée dont le nom en lui-même est tout un poème, le musée des cœurs brisés. Il y en avait déjà un à Zagreb, en Croatie, depuis 2010. Et bien désormais, c'est Los Angeles qui en abrite un.
Et comme son nom l'indique joliment, il est dédié aux histoires d'amour contrariées, des témoignages d'anonymes qui racontent leur rupture en l'accompagnant d'un objet emblématique.
Un musée de l'intime par excellence qui se trouve, c'est ironique, en plein cœur de Hollywood et de ses fabriques de stars. Tessa Groman a fait la visite.
À Hollywood, il y a les touristes, les noms des stars gravés sur les trottoirs, les boutiques de souvenirs.
Je crois qu'il y a deux musées de cire, des vendeurs, des artistes de rue, ce qui est plutôt sympa.
Mais John Quinn, propriétaire du musée des cœurs brisés, a planté au milieu du tumulte un lieu propice à l'introspection. Dans cet espace blanc et lumineux, des visiteurs se déplacent en silence à la découverte d'histoires d'amour malheureuses. Ici, pas de souvenirs de stars, mais des objets d'inconnus liés à une relation qui s'est terminée. Amanda Vandenberg, co-directrice du musée des cœurs brisés de Los Angeles.
Tout le monde a conservé quelque chose ou connaît quelqu'un qui a conservé quelque chose, une personne qui est partie, vous savez, après une rupture.
Le bouche à oreille a suffi pour que 350 objets accompagnés d'une lettre arrivent au musée en quelques semaines avant l'ouverture. Après un tri subjectif, 100 ont été retenus pour l'exposition. On y trouve pêle-mêle un briquet Zippo, des ustensiles de cuisine, une guitare, un appareil photo, un pot de concombre, des poèmes et des dessins. Jacqueline vient à peine de débarquer de Singapour et découvre le musée avec des amis.
J'aime comment chaque objet simple cache une histoire. Oui, des histoires simples et des objets simples, mais qui signifient bien plus. Et chaque histoire est waouh.
Wow. Les textes ont parfois des allures de roman, d'autres tranchent comme un coup de rasoir. J'ai détesté cet état et l'état dans lequel tu m'as mis, dit un mot placé à côté d'une plaque d'immatriculation du Texas. Maggie, 22 ans, a été très touchée par un vêtement.
Il y a cette robe chinoise, j'ai l'impression d'être en résonance avec ce qu'elle raconte. C'est très fort, donc c'est mon objet préféré jusqu'à présent.
La robe est le vestige d'une passion adolescente entre une jeune fille de 14 ans et un garçon tourmenté qui a fini par se suicider. David, originaire de l'État de New York, est venu accompagné de sa petite amie.
C'est sympa, je trouve, de regarder comment d'autres gens géraient ce genre de difficultés. Il y a tellement de points communs dans les relations amoureuses. Vous pouvez entrevoir les raisons qui ont fait que la relation a échoué et peut-être mieux traverser les crises que vous vivez vous-même.
De son côté, Lise, son amie, avoue avoir pensé à l'objet qu'elle amènerait si elle se séparait de David.
Oui, j'ai réfléchi à ça. On n'a pas cassé avec David, mais si c'est arrivé, j'ai réfléchi à ce que je pourrais apporter. Mais c'est très difficile pour l'instant en étant si amoureuse. C'est difficile d'imaginer lâcher ces objets.
Le musée ne se limite pas aux ruptures amoureuses. Quelques histoires parlent aussi d'amitié ou de relations filiales trahies ou brisées. Certaines sont drôles, d'autres tragiques, toutes sont sincères. John Quinn, le propriétaire du musée, a une théorie à ce sujet.
Ici, à LA, les gens se livrent plus facilement, ils parlent d'eux-mêmes et de leur vie de manière plus spontanée.
Caché au fond du musée, un espace en forme de confessionnal permet aux visiteurs de s'exprimer dans un livre blanc. En un mois, toutes les pages ont déjà été noircies. Tessa Groman, Los Angeles, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Tiziana Marone.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Tiziana, on commence avec le décès de l'ancien Premier ministre français Michel Rocard avant-hier à Paris, à l'âge de 85 ans. Sa mémoire est saluée de toutes parts en Outre-mer et en Guadeloupe. On veut d'abord se souvenir de l'image d'un grand homme politique.
Et au-delà de l'image du partenaire attentif aux préoccupations d'outre-mer, il faut rappeler que Michel Rocard est considéré comme le père des accords de Matignon de 1988, alors qu'il était Premier ministre de François Mitterrand, des accords qui mettent fin aux violences en Nouvelle-Calédonie et placent ce territoire sur la voie de l'autodétermination. La France perd un réformateur, c'est la réaction du président de la région Guadeloupe, Victorin Lurel.
Il a été déterminant en remettant autour de la table la Fleur et Tibaou, en mettant des chrétiens, des francs-maçons, des protestants autour de la table, bref, à renouer le fil. Quand on sait l'importance de ces courants philosophiques en Nouvelle-Calédonie, il avait su trouver la manière de le faire. Il a pesé de sa personne, vraiment, par sa méthode, par sa manière d'être, cette façon de ne pas s'imposer, mais de faire appel au bon sens de chacun. Rocard était une méthode. Rocard, c'était des idées constamment en action et en modernisation. J'en ai jamais vu quelqu'un d'aussi curieux intellectuellement.
Nous restons en Guadeloupe avec la visite de Jean-Jacques Urvoas. Le ministre de la Justice est arrivé hier matin à Pointe-à-Pitre après une visite à Martinique et une autre à Saint-Martin. Un déplacement de 3 jours dans ce département où les chantiers sont urgents et nombreux. La surpopulation carcérale est au cœur des préoccupations. 750 détenus pour 450 places. Les organisations syndicales du centre pénitentiaire de Bémao ont rencontré le ministre de la Justice à huis clos. Des organisations qui se disent déçue. Elle demande notamment l'agrandissement de la prison. Patrick Damas de l'UFAP.
On a fait un beau speech, on a présenté la situation de Bémao, qu'il a reconnue, mais en matière d'agrandissement, il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas de budget. Donc c'est déplorable.
Patrick Damas, membre du syndicat des surveillants pénitentiaires, au micro de Ronan Ponet de Guadeloupe Première. Bonne journée, à demain.
Bonne journée, merci Tiziana Marone.
Et merci à Benoît Raymond à la réalisation aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. Très belle journée où que vous soyez. Les Vikings de la Guadeloupe, tout un programme jusqu'au prochain point de l'actualité. À demain.
Bonjour, c'est Maman. Tu es humoriste et tu penses que tu es plus drôle que notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur? Alors participe au prix RFI Talent du Rire dans le cadre du Festival du Gondwana en décembre à Abidjan. Viens t'inscrire sur le site internet festivaldugondwana.com. Ce que tu vas gagner?
Petit, moi-même, je n'ai pas ça sur mon compte en banque.
Autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité.
Aujourd'hui,
comment porter un autre regard sur les troubles mentaux? Qu'est-ce que la folie? Comment faire évoluer nos pratiques et nos préjugés sur ces désordres psychiques?
Autour de la question,
Caroline Lachowski.
Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU.
RFI.